On va aller rejoindre Patrice Saint-Pierre qui est en colloque des employés FADOC à Victoriaville présentement. Bonjour Patrice.
Bonjour Annick, bonjour à toi.
Patrice, c'est utile à quoi ce colloque-là pour aider au développement de la FADOC régionale?
Bien, c'est un incontournable, c'est une activité qui est à la fois de formation et d'information qui nous permet là, d'améliorer notre structure organisationnelle, mais surtout de demeurer collé sur les besoins des aînés d'aujourd'hui, sur les enjeux également qui sont prioritaires, mais aussi d'échanger avec nos collègues des différentes régions sur des projets innovants qu'on peut mettre en place. Parce que quand on regarde sur l'ensemble du territoire québécois, on a environ 140 personnes qui travaillent dans tout le réseau FADOC. Et il y a de bonnes idées qui émergent au sein de Lac-Saint-Jean, mais il y en a également ailleurs. Donc, ça sert un peu à ça, à ce colloque-là, de faire ce partage-là d'expérience.
OK. Fait que, puis ça, donc, ça a des retombées quand vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose d'intéressant puis que vous l'implantez. C'est intéressant pour tout le monde, là.
Bien, c'est l'objectif, bien entendu, de pouvoir nous partager des bons coups, de pouvoir aussi travailler avec des personnes à des postes particuliers. Parce que quand je parlais de formation aussi tout à l'heure, une personne qui, chez nous, est au niveau de la gestion des exemples de la base de données ou de nos cartes de membres, peut juste sur des façons de faire avec d'autres collègues de région et d'améliorer la performance. Parce qu'on sait qu'on est dans des organisations comme dans des entreprises, même si on est un organisme à but non lucratif, on doit toujours optimiser nos façons de faire pour donner un meilleur service client, mais aussi pour s'assurer que le membre va avoir le plus haut standard de service qu'il est en droit de recevoir. Donc, c'est dans cet objectif-là qu'on est continuellement en apprentissage, dans un processus d'amélioration continue. Puis ça passe par les ressources humaines, bien entendu. Ça passe par l'implantation de projets innovants. C'est vraiment agréable. On se rappelle l'an passé, notamment, qu'on avait, nous, parce qu'il y a comme un genre de concours entre les régions. On avait gagné le premier prix l'année passée avec le jeu questionnaire Connais-tu ta région. Les gens avaient trouvé des idées géniales. De sorte que là, il y a d'autres régions qui vont probablement implanter ce truc-là. Alors nous, c'est aussi la façon de venir s'alimenter de d'autres initiatives qui sont un peu partout. Donc, très intéressant là et stimulant et très aussi important, je dirais, dans la consolidation de nos équipes réseau.
Maintenant, je ne sais pas si on en parle du côté de Victoriaville. On va parler de deux sujets d'actualité, mais on a appris ce matin, et puis ils sont en point de presse en ce moment, que la Cour supérieure du Québec autorise une action collective pour les résidents des CHSLD ayant connu une éclosion majeure de COVID-19 au plus fort de la pandémie. Ça vise plusieurs personnes, en fait. Je t'ai envoyé la nouvelle. Est-ce que vous avez eu le temps de partager là-dessus un peu?
Bien, pas vraiment à l'intérieur de nos rencontres, mais je parlais tout à l'heure avec le directeur général provincial, M. Danny Prudhomme, de la nouvelle qui est sortie. Écoute, c'est une bombe ce matin, c'est quelque chose de majeur, ce recours collectif-là qui est intenté par Maître Martin Ménard, qui est le fils de Jean-Pierre Ménard, qu'on a bien connu dans plusieurs causes qui touchaient des personnes qui avaient été victimes de mauvais traitements ou de situations préjudiciables au niveau là, des hôpitaux du Québec. On l'a vu très, très régulièrement.
Oui, oui, oui.
C'est cette poursuite-là aujourd'hui, là, ce recours collectif qui est permis, va donner une voix à des aînés qui auraient pu être victimes de situations préjudiciables. Il faut déjà mentionner, par le passé, Annick, que le comité provincial des malades, avec aussi un groupe d'individus, un autre recours collectif qui est présentement en cours, qui est débattu, sur toute la maltraitance organisationnelle. Donc, c'est un long processus pour lequel la FADOC était totalement en accord. C'est la même chose aujourd'hui avec ce processus-là qui se met en place. Écoutez, s'il y a des gens qui ont été victimes de situations qui étaient préjudiciables, il est important qu'ils soient compensés. Malheureusement, il y en a qui sont décédés, ce sera les familles qui pourront avoir le règlement, mais aussi ça va rendre hommage à la mémoire de ces gens-là. Mais ça va surtout permettre peut-être de corriger des situations parce que faut se rappeler, en temps de pandémie, il y a des grandes questions qu'on devait se poser. Comment des milieux comme les CHSLD, où les gens ont très peu de contact entre eux, c'est des gens qui sont alités au lit avec des mesures de protection exceptionnelles, c'est des milieux où on avait le plus d'équipements de protection.
Oui.
Comment on a pu avoir autant de contagions et de décès? Probablement que ce recours collectif-là va nous apporter des réponses puis va permettre dans le futur que ces situations-là ne se reproduisent plus. En tout cas, du moins, c'est ce qu'on espère.
Effectivement, on l'espère. Autre situation, Patrice, on a parlé de ça cette semaine, les 10 ans de la tragédie de l'Île Verte, là, 32 personnes âgées qui sont décédées, il n'y avait pas de gicleurs dans un incendie. C'est épouvantable, cette histoire-là. 10 ans après, on est rendu où au Québec? On est rendu où dans la région?
Écoute, c'est on est aux prises avec une situation où on a vu, à la suite de la tragédie de l'Île Verte, qui a été tout à fait incroyable là, dans l'histoire du Québec, ces 32 décès-là, on a vu arriver des mesures de contrôle, des normes qui se sont ajoutées au niveau des résidences privées pour aînés. Maintenant, ces normes-là, notamment au niveau de l'installation du GICLAR, ont eu son importance, parce que si on regarde depuis 2014, en fait, on a approximativement 500 résidences sur l'ensemble du territoire du Québec qui ont fermé. Et ça, c'est dû à, je dirais, à l'instauration constante de normes de plus en plus strictes et sévères, mais qui à la fois sont nécessaires, mais dans lesquelles on doit faire un juste équilibre entre pas surnormer, mais avoir des milieux d'accueil aussi pour permettre à ces gens-là d'avoir des soins ou des choses qui vont être appropriées par rapport à leur état de santé. Parce que dans un Québec vieillissant, à ne pas se tromper, si aujourd'hui on n'a pas le milieu des résidences privées pour accueillir ces gens-là, où ces personnes-là vont-elles se retrouver dans les logements, dans des logements insalubres, avec pas de services, avec pas de gicleurs, qui ne seront pas tout à fait mieux?
On va manquer de place, là. On va manquer de place. Puis les gicleurs, c'est important, oui, mais c'est extrêmement dispendieux aussi, là. Le gouvernement devrait donner plus d'aide par rapport à ça.
Bien, c'est ce que l'on souhaite. Il y a eu des programmes d'aide qui ont été développés. Mais tu sais, il y a même des municipalités actuellement qui ne sont pas capables de donner les pressions d'eau suffisantes à des résidences privées pour leur permettre de rejoindre les normes que le gouvernement met en place. Vous regarderez dans le Bas-Saint-Laurent, une grosse résidence, en fait, c'est une ancienne congrégation religieuse qu'on va transformer, 250 unités. Pour installer des gicleurs, on doit faire un bassin pour permettre de pomper l'eau pour avoir des gicleurs. Ça va coûter juste sur l'installation des gicleurs 10 millions annuels. Donc, on comprend bien qu'il y a des affaires qui sont totalement un peu... je ne dirais pas irréel ou exagéré, mais qui ont une incidence sur un hébergement de qualité pour les aînés. Et c'est là qu'il faut faire la juste part pour nous permettre d'avoir des milieux qui sont intéressants, sécurisants, puis qui vont permettre aux gens d'avoir un upgrade, une situation améliorée s'ils étaient dans leur propre demeure ou dans un logement où il n'y aurait pas toute une qualité de service. Tu sais, il faut jouer aussi des fois, entre guillemets, là, jouer peut-être un mauvais mot, mais il faut des fois accepter un certain
risque. Ben oui, un certain risque, c'est normal aussi, là.
Ben, tu sais, quand je m'en vais en voiture, le risque zéro d'avoir un accident, il n'existe pas. Et lorsqu'on regarde notre histoire au Québec, ça, c'est fort heureux, des 30 dernières années, il y a eu très, très peu de décès au niveau des résidences privées de par des incendies qui sont arrivés parce qu'il y a de très nombreuses normes de sécurité qui ont été ajoutées sans que ce soit nécessairement des gicleurs, qui ont permis d'avoir une certaine forme de contrôle. Puis il faut se rappeler une chose, l'Île Verte, la capacité d'intervention des services incendie n'est pas celle, exemple, d'une ville comme Saguenay. Rappelez-vous, à Saguenay, on a eu un gros incendie au domaine des belles générations, dans le secteur nord, on avait 4 décès. Mais qu'est-ce qui a sauvé dans ce cas-là? C'est la rapidité d'intervention des corps de pompiers. Donc, des fois, il faut voir, il faut gérer un peu le risque, faire des mesures qui vont nous permettre de garder des milieux qui vont être adéquats pour les aînés et qui ne seront pas surnommés au niveau là, des normes gouvernementales.
Bien, je suis d'accord. Puis en même temps, quand arrive un drame comme ça, l'Île Verte, c'était épouvantable, cette tragédie-là. C'est sûr que sous le coup de l'émotion, des fois, on prend des décisions pour protéger tout le monde. Mais des fois, il faudrait peut-être prendre un pas de recul, là.
Bien, c'est des décisions politiques qui faisaient aussi en sorte que, je dirais, pour le politique, les gens pouvaient se dire, bien, regardez, on a fait nos devoirs. Mais à l'époque, on n'avait pas eu l'occasion, Annick, à l'époque, d'avoir nos chroniques, mais on avait, nous, ici, au niveau de la FADOC, dans la région, mentionné un certain inconfort avec l'instauration de ces normes-là, qu'on voyait qu'il y aurait un impact négatif sur les résidences. Et lorsqu'on regarde 10 ans par après, bien, on avait vu juste, mais il faut dire que nous, depuis 1993, qu'on travaille dans le milieu des résidences privées, on connaît les réalités des propriétaires, on savait bien que l'instauration de nouvelles normes aura un impact négatif.
Absolument. Bien, Patrice, c'était vraiment intéressant de te parler ce matin. Je te souhaite une bonne fin de colloque, puis la semaine prochaine, j'imagine qu'on va en reparler un petit peu.
Oui, certainement, parce qu'on va avoir probablement d'autres détails à la suite de la conférence qui a cours présentement. Merci.
Absolument.
À tous nos auteurs. On se retrouve la semaine prochaine.
Merci. 11h19, nous, on repart en musique avec Boom Desjardins d'Est en Ouest.